Dans notre série sur Moïse, nous arrivons ce matin à la première confrontation avec Pharaon. Moïse, après de nombreuses tergiversations, a finalement accepté de répondre à l'appel de Dieu et de retourner en Égypte. C'est ainsi qu'il a tout d'abord rencontré Aaron, son frère, puis les anciens du peuple, et enfin le peuple lui-même. Il leur a parlé de la délivrance que Dieu allait accorder à son peuple, et il a accompagné son discours de prodiges que Dieu lui avait donné de faire. C'est la fin du chapitre 4. Toutes ces étapes ont très certainement été riches en émotions. Et elles ont, à n'en pas douter, suscité une immense vague d'espoir. Enfin, la lumière au bout du tunnel. Enfin, Dieu rompt son silence. Enfin de l'espoir après tant de souffrances et tant de misères. Les attentes de tous, Moïse, Aaron, les anciens, le peuple, sur ce qui allait se passer, devaient être à la mesure de la dure servitude qu'ils enduraient depuis des décennies, à la mesure de leur grand désespoir et de leur grande souffrance. Pourtant, si les perspectives de cette première rencontre étaient certainement très bonnes et très prometteuses, ce qui va en ressortir ne sera que souffrance et misère supplémentaire pour le peuple. La vague d'espoir suscitée par la venue de Moïse va rapidement se transformer en tsunami de désespoir. Je vous invite à lire notre texte qui se trouve dans les chapitres 5 et 6 ce matin du livre de l'Exode. Je vais sauter des versets par-ci par-là pour raccourcir un petit peu la lecture. Donc ça ne sera pas forcément évident à suivre, mais tout va être projeté. Nous commençons au début du chapitre 5, verset 1. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès du Pharaon et lui dirent « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple, afin qu'il célèbre une fête pour moi au désert. » Le Pharaon répondit « Qui est le Seigneur pour que je l'écoute en laissant partir Israël ? Je ne connais pas le Seigneur et je ne laisserai pas partir Israël. » Ils dirent, « Le Dieu des Hébreux est venu au-devant de nous. Laisse-nous, je te prie, faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices au Seigneur notre Dieu, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. » Le roi d'Égypte leur dit, « Moïse et Aaron, pourquoi voulez-vous décharger le peuple de son travail ? Allez donc à vos corvées. » Le Pharaon dit, « C'est maintenant, quand ce peuple du pays est devenu nombreux, que vous allez lui faire cesser ses corvées ?» Ce même jour, le Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs et secrétaires du peuple. « Vous ne donnerez plus comme d'habitude de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes s'en ramasser. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient d'habitude. Vous ne la diminuerez en rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi il crie « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Accablez ces gens de travail, qu'ils aient par là de quoi s'occuper et qu'ils ne prêtent plus attention à des paroles mensongères. » Les inspecteurs et les secrétaires du peuple allèrent dire au peuple. Le peuple se dispersa dans toute l'Égypte pour ramasser du chaume et le hacher. Les inspecteurs les pressaient en disant « Achevez votre travail de chaque jour, comme quand il y avait de la paille. » On frappait même les secrétaires des Israélites, ceux qui avaient été préposés sur eux par les inspecteurs du Pharaon. Les secrétaires des Israélites allèrent se plaindre au Pharaon. Le Pharaon répondit « Vous êtes des paresseux !» En sortant de chez le Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent : « Que le Seigneur vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux au Pharaon et aux gens de sa cour. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous tuer. » Moïse revint vers le Seigneur et dit : « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple ? Pourquoi m'as-tu envoyé ? Depuis que je suis allé trouver le Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple. Et tu n'as pas délivré ton peuple. » Le Seigneur dit à Moïse : « Tu verras maintenant ce que je vais faire au Pharaon. C'est sous l'action d'une main forte qu'il les laissera partir. C'est sous l'action d'une main forte qu'il les chassera de son pays. » Dieu dit encore à Moïse : « Je suis le Seigneur. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu puissant, mais je ne me suis pas fait connaître d'eux sous mon nom de Seigneur. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner Canaan, le pays où ils ont séjourné en émigrés. Moi, j'ai entendu les soupirs des Israélites que les Égyptiens réduisent en esclavage, et je me suis souvenu de mon alliance. Aussi dis aux Israélites : Je suis le Seigneur. Je vous affranchirai des corvées de l'Égypte. Je vous délivrerai de l'esclavage auquel on vous soumet. D'un bras étendu, par de grands jugements, j'assurerai votre rédemption. Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple. Je serai votre Dieu, et ainsi vous saurez que je suis le Seigneur votre Dieu, celui qui vous affranchit des corvées de l'Égypte. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré à main levée de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Moi, le Seigneur, je vous le donnerai en possession. » C'est ainsi que Moïse parla aux Israélites, mais ils n'écoutèrent pas Moïse à cause de leur impatience sous ce dur esclavage. Le Seigneur dit à Moïse : « Va, parle au Pharaon, le roi d'Égypte, pour qu'il laisse partir les Israélites de son pays. » Moïse dit devant le Seigneur : « Si les Israélites ne m'ont pas écouté, comment le Pharaon m'écouterait-il, moi qui suis incirconcis des lèvres ? » Lorsque le Seigneur parla à Moïse en Égypte, le Seigneur dit à Moïse : « Je suis le Seigneur. Dis au Pharaon, le roi d'Égypte, tout ce que je te dis. » Moïse dit devant le Seigneur : « Je suis incirconcis des lèvres. Comment le Pharaon m'écouterait-il ? » Quelle désillusion pour le peuple. Quelle désillusion pour Moïse et Aaron. Ce devait être une journée radieuse, celle de la délivrance de Dieu. Mais le rêve s'est transformé en cauchemar. Pourquoi ? Dieu n'avait-il pas promis la délivrance ? Dieu n'avait-il pas appelé et envoyé Moïse pour cela ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Pourquoi Pharaon n'a-t-il pas accédé à la demande de Moïse, à la demande de Dieu ? Cela devait être simplement une formalité. Il est vrai que Moïse n'a pas tout à fait dit les choses telles que Dieu les lui avait dites. Au chapitre 3, verset 18, le ton est différent en tout cas. Dieu avait dit de dire au Pharaon : « Le Seigneur, le Dieu des Hébreux, est venu à notre rencontre. Maintenant, je te prie, accorde-nous de faire 3 jours de marche, etc. » Et qu'a dit Moïse ? Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël : « Laisse partir mon peuple, afin qu'il célèbre une fête pour moi au désert. » C'est pas tout à fait pareil. Cependant, même si ce détail est sans doute significatif, au moins de notre difficulté à faire précisément ce que Dieu nous dit et nous demande, je ne suis pas sûr néanmoins qu'il faille chercher là toute l'explication et même peut-être l'explication au refus de Pharaon. Par contre, certainement que l'orgueil de Pharaon est pour beaucoup dans l'explication de ce qui s'est passé lors de cette première rencontre. Imaginons la scène. D'un côté, Pharaon, l'homme de l'époque le plus puissant au monde. Dans les fastes de sa cour, il joue à domicile, il est en position avantageuse, il est en position de puissance. De l'autre, Moïse et Aaron, deux vieillards qui ne payent pas de mine, ils cumulent à eux deux plus de 160 ans, vêtus d'habits modestes, trahissant leur condition modeste, issus d'un peuple esclave, issus d'un peuple méprisé par les Égyptiens, ils sont en position de faiblesse. Il n'y a pas vraiment là de quoi impressionner le roi d'Égypte. Et que viennent-ils faire? Ils viennent demander à Pharaon de plier le genou. À Pharaon, de plier le genou devant le Seigneur. Ils viennent même lui ordonner, laisse partir mon peuple. Ordonner de conformer sa volonté à celle de ce Seigneur. Alors oui, bien sûr, ils se sont présentés au nom du Seigneur. Et alors, ça a dû faire une belle jambe à Pharaon, comme on dit. Qui était le Seigneur pour Pharaon? D'ailleurs, il pose la question au verset 2. Le Pharaon répondit, qui est le Seigneur pour que je l'écoute? En laissant partir Israël. Je ne connais pas le Seigneur. Et je ne laisserai pas partir Israël. Il faut sans doute comprendre derrière cette interrogation de Pharaon, non pas le signe de son ignorance du Dieu des Hébreux, bien évidemment, il savait qu'ils avaient un Dieu, mais plutôt le signe de son arrogance. Qui est le Seigneur? Autrement dit, qu'a-t-il fait pour que je le connaisse? Pour qu'il mérite que je l'écoute, pour que je le craigne. Oui, pourquoi Pharaon devrait-il craindre le Dieu d'un peuple esclave? Le Dieu qui n'a pas su défendre son peuple, le Dieu qui n'a pas su épargner les souffrances à son peuple, le Dieu qui n'a pas de temple, qui n'a pas de prêtre pour le servir. Pourquoi devrait-il craindre ce Dieu-là? Et se soumettre à sa volonté. J'imagine facilement que Pharaon n'a pas dû en croire ses oreilles. Quelle audace! Quelle audace de la part de ses descendants! Quelle arrogance d'oser seulement venir avec une telle prétention! Quelle insolence de défier le représentant de Dieu sur terre! Quelle injure faite à sa majesté. Qui est ce Seigneur? Non, Pharaon ne va pas se laisser faire et il ne va pas se priver de cette main-d'œuvre gratuite, pas même pour 3 jours. Au contraire, ils vont voir de quel bois se chauffe Pharaon. Ils vont voir ce qu'il en coûte de défier Dieu sur terre. Ces paresseux vont comprendre qui est Pharaon. Ils vont comprendre qui est le patron. Et c'est ainsi que Pharaon durcit les corvées imposées à Israël. Notons que rien n'a changé, rien ne s'est arrangé pour Israël depuis que Moïse était parti en Madian. Pendant toute cette absence de Moïse, ils ont continué à être asservis, à être opprimés et à souffrir. Et maintenant, Pharaon ordonne que le même nombre de briques soient faites quotidiennement, mais sans leur fournir la paille. C'est mission impossible. Pharaon veut les briser. Pharaon veut asseoir son autorité. Lors de la moisson en Égypte, on ne prenait que les épis, et donc la paille restait sur pied. Il fallait donc pour les Hébreux aller dans les champs, couper la paille, la ramener. Ça allongeait les délais. Ça demandait beaucoup d'énergie, beaucoup de main-d'œuvre, et ça diminuait considérablement le temps qu'il restait pour fabriquer les briques. C'était mission impossible. Et ce qui devait arriver, arriva. Comme les Hébreux n'arrivaient pas à assurer le rendement demandé, les secrétaires du peuple, c'est-à-dire les responsables hébreux des travaux, se firent punir. Verset 14, ils se firent battre. J'avais oublié de sauter, j'ai sauté une diapo. Alors, verset 15, ces mêmes secrétaires du peuple qui se sont fait battre vont aller se plaindre auprès de Pharaon. Mais Pharaon ne veut rien entendre. Il confirme qu'il n'y aura plus de paille. Il les traite de paresseux et il les renvoie au travail. Et en sortant de chez Pharaon, ses contremaîtres hébreux tombe sur Moïse et Aaron qui les attendaient. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont en colère. Ils sont désillusionnés. Ils sont révoltés. Verset 21, ils leur dirent que le Seigneur vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux au Pharaon et aux gens de sa cour. Vous avez mis une épée dans sa main, dans leurs mains, pour nous tuer. Souvent, les responsables, quels qu'ils soient, et c'est aussi vrai dans l'Église et à tous les niveaux dans l'Église, deviennent les boucs émissaires naturels quand quelque chose ne va pas. Et nous devons toujours veiller à ne pas tomber dans ce genre de facilité. Il ne s'agit pas de ne pas voir les responsabilités quand il y en a des uns et des autres, mais de toujours faire la part des choses entre les personnes et les situations. Qu'il est loin, pourtant il n'a fallu que 24 heures, qu'il est loin l'espoir suscité par la venue de Moïse, qu'il est loin l'horizon de délivrance, maintenant remplacé par celui de la mort. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous tuer. C'est ça l'horizon pour eux maintenant. Pour Moïse, c'est la douche froide, c'est l'incompréhension, c'est le découragement. Mais Moïse agit de la bonne manière et il se tourne vers Dieu. Il aurait pu réagir autrement. Il se tourne vers Dieu et il lui ouvre son cœur, il lui fait part de ses incompréhensions. Versets 22 et 23, « Pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple ?» Pourquoi m'as-tu envoyé ? Autrement dit, je t'avais bien dit, je t'avais bien fait comprendre que je n'étais pas l'homme de la situation. Pourquoi n'as-tu pas délivré ton peuple, le peuple comme promis ? Au début du chapitre 6, Dieu rappelle qu'il est Yahvé, celui qui est l'Éternel, le Seigneur. Il rappelle son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il rappelle la libération qu'il va apporter aux Israélites. Il rappelle qu'il va le faire par de grands prodiges qui seront des jugements sur l'Égypte. Il rappelle qu'il va adopter ce peuple comme son peuple. Ils seront son peuple et il sera leur Dieu. Il rappelle qu'il va leur donner le pays qu'il a promis à leur père. Pour Dieu, rien n'a changé. Pas de changement de programme. Dieu n'est ni surpris, ni contrarié dans ses plans par le refus de Pharaon. Ce que Dieu dit à Moïse, Moïse le dit au peuple. Verset 9. Mais le peuple n'écoute pas. L'écoute n'est pas là parce qu'ils n'en peuvent plus de ce dur esclavage. C'est souvent ce qui se passe quand l'épreuve dure et finit par occuper tout notre esprit. L'écoute n'est pas là parce qu'ils sont maintenant impatients. Il n'y a plus qu'une seule chose qui compte, c'est la délivrance.
et le plus rapidement possible. Le peuple n'écoute pas, il ne comprend pas, il ne comprend déjà plus. On n'est qu'au commencement. Mais il n'est pas le seul. Moïse aussi ne comprend pas, ne comprend plus ce qui se passe. Quand Dieu lui demande, versets 10 et 11, de retourner voir Pharaon, que dit-il ? Il ressort une vieille excuse de son sac, une de ses excuses lors de toutes ses tergiversations, au chapitre 3 et 4. Verset 12, il dit « Je suis incirconcis des lèvres ». Une façon imagée de dire qu'il n'a pas la parole facile. C'est ce qu'il avait dit au chapitre 4, verset 10. Et puis il va le répéter au verset 30. Moïse dit devant le Seigneur « Je suis incirconcis des lèvres ». Comment le Pharaon m'écouterait-il ? Et Moïse est d'une certaine manière revenu à la case départ. Le baromètre de sa confiance, qui affichait grand beau temps, affiche maintenant avis de tempête. Voilà, dans les grandes lignes, le texte que nous avons lu et que nous allons continuer de méditer maintenant. Et j'aimerais faire ressortir plusieurs choses de notre texte. Et comme la dernière fois, elle concerne essentiellement notre service pour Dieu. Mais quand je dis notre service pour Dieu, en réalité, je pourrais tout aussi bien dire notre vie chrétienne. Je ne pense pas qu'il faille faire de différence. Être chrétien, c'est servir Dieu, n'est-ce pas ? Et la première chose que j'aimerais dire dans l'optique de l'application de ce texte, c'est qu'au service du Seigneur, nous perdons parfois de vue ce que Dieu dit. Au service du Seigneur, nous oublions parfois, nous perdons parfois de vue ce que Dieu dit. Qu'est-ce qui m'amène à dire cela ? C'est tout simplement en faisant le lien entre ce qui se passe dans notre texte et ce que Dieu avait dit auparavant. Le peuple ne comprend pas, Moïse et Aaron ne comprennent pas ce qui se passe, et pourtant, qu'avait dit Dieu ? Concernant ce qui allait se passer avec Pharaon. On revient un petit peu en arrière. Chapitre 3, versets 19 et 20. C'est Dieu qui parle. « Je sais bien, dit-il, moi que le roi d'Égypte ne vous permettra pas d'y aller, pas même sous l'action d'une main forte. J'étendrai la main et je frapperai l'Égypte en y faisant toutes sortes de choses étonnantes. Après cela, après les choses étonnantes, il vous laissera partir. » Chapitre 4, verset 21, le Seigneur dit à Moïse, « Maintenant, il est en chemin, maintenant que tu retournes en Égypte, regarde tous les prodiges que j'ai mis dans ta main, tu les feras devant Pharaon, et moi je ferai en sorte qu'il s'entête, il ne laissera pas partir le peuple. » Fallait-il être étonné du refus de Pharaon ? Bien sûr, nous ne sommes pas à leur place. Il est facile pour nous de faire ce genre de remarques, tellement à distance, hors de la situation difficile, avec l'éclairage de la révélation tout entière. Bien évidemment, c'est facile pour nous d'avoir toutes les réponses. Pourtant, la réalité est quand même bien là. Dieu avait précisé comment les choses allaient se passer. Il avait d'une certaine manière donné la feuille de route à Moïse. Il avait dit à l'avance que Pharaon refuserait et qu'il ne plierait que sous la main puissante de Dieu. Alors que le peuple ne se soit pas souvenu de ça, peut se comprendre assez aisément. C'est lui qui souffre quand même, pas trop Moïse. Pour lui, toute cette histoire de délivrance, c'est assez nouveau. Moïse vient d'arriver, c'est récent, ça a suscité un espoir immense, mais ça ne fait pas des semaines et des mois quand même, ça vient de se passer. Par contre, Moïse, ça fait un petit peu plus longtemps. Et pour Moïse, c'est, me semble-t-il, un peu plus compliqué à comprendre qu'il est oublié, même s'il est facile, je crois, pour nous de nous identifier à cela dans notre propre vie. À l'inverse du peuple, Moïse a eu le temps d'intégrer les paroles de Dieu. Il a eu le temps d'y penser en madiant au buisson ardent, en madiant sur le chemin du retour, en parlant à Aaron, en parlant aux anciens, en parlant au peuple. Pour Moïse, c'est bien ancré. Il a eu le temps de se préparer à tout ce que Dieu a dit. Mais il est tombé dans une des ornières les plus insidieuses de la marche par la foi. Il a oublié ce que Dieu dit, ce que Dieu avait dit. Il a perdu de vue la feuille de route que Dieu lui avait donnée. Il a fini par confondre sa volonté, ses désirs, avec la volonté de Dieu. Et nous, que faisons-nous des paroles du Seigneur ? Que faisons-nous des promesses de Dieu dans notre vie ? Quand les choses ne se passent pas exactement comme nous le voudrions. Restons-nous malgré tout dans la confiance, parce que Dieu a dit, parce que Dieu a promis, parce que nous connaissons la parole, parce que nous vivons de cette parole? Ou bien, à l'instar de Moïse et du peuple, oublions-nous ce que Dieu a dit dès l'instant que les cailloux du chemin blessent nos pieds? Dès l'instant que la pente se fait un petit peu trop raide, dès l'instant que l'épreuve dure, oublions-nous tout ce que Dieu a dit et promis? Au service du Seigneur, il nous arrive parfois de perdre de vue ce qu'il a dit. Et il faut que nous soyons vigilants pour ne pas tomber dans cette ornière tellement facile, je crois, pour chacun de nous. Cette réalité que nous venons d'évoquer existe dans la vie chrétienne parce que la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Et le deuxième point que je voudrais souligner maintenant, c'est qu'au service du Seigneur, le chemin est parfois étroit et difficile. Au service du Seigneur, le chemin est parfois étroit et difficile. Et dans notre texte, cela se traduit par le durcissement des corvées infligées par Pharaon. Faire la volonté de Dieu, vivre de sa parole, ne nous assure pas forcément une vie paisible, une vie sans épreuve et une vie sans difficulté. Ça se saurait, hein, si c'était le cas. Qui a dit que suivre le Seigneur, c'était facile ? Qui a dit que servir le Seigneur, c'était une partie de plaisir? Quel faux docteur avons-nous écouté si nous croyons ces choses? Il ne s'agit pas, bien évidemment, de noircir le tableau. Il y a des joies dans la vie chrétienne. Il y a du repos dans la vie chrétienne. Il y a de la paix dans la vie chrétienne. Il y a des satisfactions dans la vie chrétienne. Mais ces choses ne résument pas à elles seules la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est aussi un chemin étroit et rocailleux sur lequel il faut avancer. C'est aussi une croix qu'il faut porter. C'est aussi un renoncement à soi qu'il faut faire jour après jour. C'est une nature pécheresse contre laquelle nous devons lutter sans cesse. C'est l'opprobre du Christ qu'il faut parfois porter. Ce sont les épreuves et les circonstances difficiles que Dieu permet dans notre vie. Toutes ces choses dont Dieu se sert pour nous apprendre la confiance, la patience, la persévérance, toutes ces choses qui nous apprennent à dépendre de Dieu, à compter sur lui, à vivre de sa parole. Non, la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Ce n'est pas une vie où il n'y a, où il ne devrait y avoir que des victoires. Ce n'est pas une vie qui n'est faite que de louanges. Ces choses existent dans la vie chrétienne, bien évidemment, mais le reste aussi. Parfois même, c'est Dieu qui nous conduit dans l'épreuve de la foi. C'est Dieu qui la permet, et c'est d'une certaine manière ce qui se passe dans notre texte. C'est ce qui s'est passé quand Jésus a envoyé les disciples de l'autre côté du lac, tout droit dans la tempête. Il savait bien qu'il y allait avoir une tempête. Il leur a quand même dit « Allez de l'autre côté. Allez dans la tempête. » C'est ce qui s'est passé quand Daniel et ses amis se sont retrouvés dans la fournaise ardente, et nous pourrions multiplier les exemples. Et cette réalité, elle est souvent difficile à accepter pour nous. Pourquoi ? Peut-être parce que nous ne connaissons pas assez bien les Écritures, qui sont remplies des exemples que je viens de citer. Peut-être parce que nous perdons facilement de vue ce que Dieu dit dans sa parole. Peut-être connaissons-nous ces choses, mais nous oublions. Peut-être aussi avons-nous accepté une certaine conception, une certaine compréhension de la vie chrétienne qui n'est pas juste, mais nous l'avons intégrée. Peut-être parce que nous faisons l'amalgame entre notre vie d'occidental, confortable au XXIe siècle, avec le chemin de la foi, qui du coup ne peut être à nos yeux que confortable, que large, que spacieux. C'est la vie que nous menons, avec les difficultés des uns et des autres. À cette réalité peut s'ajouter une difficulté supplémentaire, que je formulerai ainsi: souffrir quand nous désobéissons, à la limite, on accepte, on trouve ça encore assez normal, ça ne nous pose pas trop de problèmes. Mais souffrir quand nous obéissons à Dieu, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus dur à accepter, et c'est ce qui se passe dans notre texte. Et on pourrait même ajouter ici deux difficultés supplémentaires. La première, c'est la difficulté de souffrir quand nous faisons des sacrifices pour le Seigneur. Et nous sommes parfois tentés de dire, comme les disciples dans les évangiles, « Seigneur, n'avons-nous pas tout quitté pour te suivre ? Et tu nous traites comme ça ? Tu vois pas tous les sacrifices que je fais pour toi, Seigneur ?» Et puis la deuxième difficulté qui s'ajoute, c'est la difficulté de souffrir quand nous faisons le bien et que nous voyons à côté de nous le méchant, entre guillemets, faire le mal et prospérer. Chers amis, avons-nous compris la nature de la vie à laquelle le Seigneur appelle les siens ? Avons-nous compris la nature du chemin étroit et rocailleux sur lequel nous sommes appelés à marcher? Souvenons-nous de ces paroles de Jésus à ceux qui voulaient le suivre. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Et à quoi servirait-il à un être humain de gagner le monde entier s'il perdait sa vie ? Ce chemin difficile est pour un temps seulement. Heureusement, l'apôtre Pierre écrit dans sa première épître qu'il nous faut, pour un peu de temps, être attristés par diverses épreuves. Pour un peu de temps. Un jour, ce sera la gloire auprès du Seigneur. Mais pour l'heure, pour un peu de temps, il nous faut marcher sur un chemin étroit. Il nous faut lutter pour notre foi. Il nous faut porter notre croix. Il nous faut renoncer à nous-mêmes. Il nous faut nous attendre au Seigneur quand la tempête fait rage dans notre vie. Un des grands pièges de la vie chrétienne, c'est le leurre ou l'illusion de la facilité. La tentation de la facilité. Facilité que si elle ne nous conduit pas directement à la désobéissance, nous amène sur des chemins de relâchement, sur des chemins de non-engagement. Il est relativement facile de venir au culte le dimanche, mais tellement plus difficile de prier régulièrement. Qu'il est relativement facile de faire certaines activités dans l'Église, mais tellement plus difficile de témoigner de sa foi, d'évangéliser à la maison, au travail, à la fac, là où le Seigneur nous a placés. Le Seigneur cherche et appelle des hommes et des femmes qui sont prêts à le suivre, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés du chemin, quelles que soient les désillusions qui ne manquent jamais d'arriver. Sommes-nous en chemin? Si c'est le cas, nous voulons persévérer et nous voulons le faire en comptant sur le Seigneur. Et si ce n'est pas le cas, Dieu nous invite à le faire parce que même si ce chemin est exigeant, c'est le chemin de la vie. C'est le chemin de la vie éternelle. Entrez par la porte étroite, dit Jésus, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Oui, au service du Seigneur, à sa suite, le chemin est parfois étroit et difficile. Le troisième et dernier point que je voudrais souligner à partir de notre texte, c'est qu'au service du Seigneur, si les difficultés sont inévitables, si les pourquoi sont inévitables, notre secours doit toujours être le Seigneur. Notre secours doit toujours être le Seigneur. Oui, les difficultés sont inévitables. Nous venons d'en parler. Les pourquoi sont inévitables. Et Moïse n'a pas dérogé à cette règle. Il a été bousculé. Il n'a plus rien compris à ce qui se passait. Il a douté. Versets 22 et 23. Il a questionné Dieu. Il a questionné Dieu et il a bien fait. Il aurait pu jeter l'éponge, il aurait pu rebrousser chemin et repartir en Madian, il aurait pu se révolter, il aurait pu tout envoyer valdinguer, mais il s'est tourné vers Dieu. Et il a bien fait. Bien sûr, à ce moment-là, dans les questions des versets 22 et 23, ce n'est pas la foi que Moïse exprime. Il est plutôt dans l'incrédulité. Mais il exprime ce qu'il y a dans son cœur. L'important, c'est de persévérer. L'important, c'est d'être vrai devant Dieu. L'important, c'est de regarder à Dieu, malgré les vents contraires, malgré les doutes, malgré les souffrances. Notons ce que Moïse dit ici, au verset 22 et 23. Il met en doute la bonté de Dieu. Oui. Il met en doute sa capacité à délivrer son peuple, oui, mais il remet surtout en question son appel. Pourquoi m'as-tu envoyé? Et puis, chapitre 6, versets 12 et verset 30, quand il parle de sa difficulté à parler, de son incirconcision des lèvres, il remet le couvert. Il revient sur un point que l'on croyait réglé, depuis ce dialogue du chapitre 4 et depuis la réponse que Dieu lui avait donnée. Souvenons-nous, chapitre 4, versets 10 et 11. Moïse dit au Seigneur, « Pardon Seigneur, mais je ne suis pas un homme à la parole facile. Ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu me parles à moi ton serviteur. J'ai la bouche et la langue pesante. » Et le Seigneur lui dit, « Qui a donné une bouche à l'être humain ? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi le Seigneur? Maintenant va, je serai moi-même avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. » Moïse revient avec cette même problématique. Et ce constat m'a interpellé, m'a fait réfléchir et m'a amené à penser en convergence avec d'autres choses que nous avons tous nos difficultés récurrentes. Nous avons tous, d'une certaine manière, nos talons d'Achille sur le chemin de la foi. Pour l'un, ça sera la difficulté à parler, comme Moïse, à témoigner peut-être de sa foi. Pour un autre, ça sera une lutte contre une addiction dans sa vie. Pour un autre encore, une propension à trop parler. Pour un autre encore, un problème d'orgueil ou un problème de colère. Ou on peut bien évidemment allonger la liste. Il ne s'agit pas ici de cautionner quoi que ce soit de mauvais. Il ne s'agit pas non plus de baisser les bras dès le départ. Mais il s'agit de rappeler que nous avons nos faiblesses et que nous avons peut-être tous une ou plusieurs échardes dans notre chair que Dieu n'a pas encore enlevées et que Dieu n'enlèvera peut-être pas. Pourquoi ? Pour que nous restions dépendants de lui, pour que nous vivions de sa grâce, pour que nous ne pensions jamais que nous pouvons y arriver par nous-mêmes. L'apôtre Paul avait une difficulté dans sa vie, nous n'en savons pas la nature, mais il l'appelle l'écharde dans la chair. Et il dit aux Corinthiens qu'il a demandé par 3 fois au Seigneur de la lui ôter. Souvenez-vous de la réponse que Dieu lui a donnée. Aussi, pour que je ne sois pas trop orgueilleux, il m'a été donné une écharde dans la chair. 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce te suffit. C'est là la clé de tout ce que nous sommes en train de dire. C'est là la clé de toute la vie chrétienne, la toute suffisance de la grâce de Dieu qui accomplit sa force dans notre faiblesse. Moïse s'est tourné vers Dieu et il a bien fait. Et en cela, il nous laisse un exemple d'humilité. 40 ans auparavant, devant la difficulté, il avait foncé tête baissée. Il avait fait autant de dégâts qu'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Depuis, il s'est assagi. Sa nature n'a peut-être pas changé, mais il a quand même appris des choses. Et surtout, il a appris ou commencé à apprendre à compter sur le Seigneur. Même dans l'adversité, surtout dans l'adversité, ici devant la folie de Pharaon. Que Dieu nous accorde à chacun cette sagesse-là. La sagesse qui vient d'en haut. La sagesse de Dieu, la sagesse que Dieu donne à celui qui la lui demande. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole, c'est Jacques au début de son épître. Et il le dit tout de suite après avoir parlé des épreuves, des difficultés de la vie. Et donc la demande de la sagesse est clairement en lien avec la gestion de ces difficultés dans notre vie. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Or, il faut que l'endurance accomplisse son œuvre pour que vous soyez accomplis et parfaits à tous égards et qu'il ne vous manque rien. Si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans faire de reproches. Et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans la moindre hésitation, car celui qui hésite est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quoi que ce soit du Seigneur, c'est un homme à l'âme partagée, inconstant dans toutes ses voies. Si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Oui Seigneur, accorde-nous ta sagesse Nous en avons tous tellement besoin. Amen. Je vous invite à quelques instants de silence.